Nous allons commencer par la prière. Ô Seigneur, Seigneur, merci pour cette joie, cette simplicité que tu nous donnes dans l'Église. Naturellement, tel que nous sommes, comme tu vois, nous parlons simplement. Nous sommes ravis de faire partie de cette famille. Et des fois, même moi, je ne me rends pas compte de cette grâce que tu nous accordes, que tu m'accordes de faire partie de cette famille. C'est une famille éternelle, puisque nous continuerons à vivre cette communion dans l'éternité. En ta présence, nous aurons toute l'éternité pour connaître Dieu. Et ce n'est pas suffisant, mais nous continuerons à contempler notre Dieu dans l'éternité, ensemble, dans une famille parfaite. Merci pour ces moments que tu nous as donnés ce matin, et déjà nous avons échangé, et déjà tu nous as nourris. Tu nous as déjà parlé. Tu m'as parlé, moi le premier. Et bien je remets entre tes mains cette préparation. Il y a beaucoup qui vient de l'homme, je le reconnais. Et bien Seigneur, toi seul, peut nettoyer tout cela, enlever tout ce qui peut venir de l'homme, tout ce qui peut être à côté de la cible, qui n'est pas conforme à toi, pour que mes frères et sœurs ne gardent que ce qui vient de toi, en m'éclairant en même temps, pour que je puisse, s'il le faut, confesser et me repentir. Merci pour toute chose, Seigneur, que ta volonté se fasse. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors vous voyez, donc le sujet a déjà été abordé depuis le début. Et le regret que j'avais, je dis, oh là là, on n'aura pas assez de temps pour tout aborder. Donc, j'étais parti sur, je ne sais pas, une douzaine de pages, j'ai réduit à 8, maintenant je suis à 7 ou 5 ou 6, je ne sais pas. Je dis, voilà, parce qu'il y a un temps à respecter pour mes frères et sœurs, il faut qu'on parte. Donc, vous acceptez qu'il y aura un peu de retard aujourd'hui parce qu'on a commencé tard. Donc, je prends juste un peu de temps pour partager avec vous un sujet qui m'a travaillé depuis pas mal de temps. Je dis bien, c'est souvent à la suite de quelque chose qui se passe durant les semaines. Et après, on arrive à un certain aboutissement que je partage avec l'Église. Si je ne partage pas avec l'Église, je partagerai avec qui? Et si je me trompe? Eh bien, c'est dans le sein de l'Église que je vais apprendre. Sinon, donc ne prenez pas ça comme des directives ou je ne sais plus sais-je. Non, c'est une confession de ma part. Et si le Seigneur le permet, eh bien, à travers l'Église, eh bien, je vais être éclairé. Il me remettra sur le droit chemin et ainsi de suite. Vous voyez, c'est mutuel. Donc, il n'y a pas quelqu'un à raison tort. Non, pas du tout. Le Seigneur seul a raison. Mais nous, on est des êtres humains. Donc, donc c'est sur ce principe-là que je partage avec vous ces quelques mots. Et comme je suis de formation historienne, donc j'aime bien faire de la recherche universitaire en histoire, c'est pour la première fois que j'ai utilisé ça au sein de l'Église. D'habitude, je vais chercher l'histoire des entreprises, 15e, 17e siècle, étudier. Et bien là, je suis parti dans l'histoire de l'Église pour consulter quelques documents, pour dire comment vivait l'Église. Ça vous posez pas des questions, vous dites peut-être on est à côté de la plaque, comme ça se déroule au culte. C'est légitime de poser la question. Comment ça se déroule notre culte là? Ça se peut qu'on est à côté, ça se peut que l'Église réellement ça se passe pas comme ça. Se poser des questions, c'est légitime et il faut se poser des questions. Et s'attendre à Dieu pour qu'il nous éclaire. Et bien c'est ce que j'ai fait. Mais en consultant un document que je vais lire avec vous, d'un historien, d'un, on va dire, philosophe, un des premiers philosophes chrétiens, qui était romain, et qui faisait un compte-rendu aux autorités romaines pour leur dire « Voilà comment ça se passe, l'Église. » Il faisait de l'apologie, on dit. Donc, il argumentait pour contredire ceux qui condamnaient les chrétiens pour dire « Oh là là, c'est une secte, c'est des syndicalistes, c'est des politiques, j'utilise les mots d'aujourd'hui. » Et lui, il fait un rapport, il écrit aux autorités, il dit « Non, non, voilà comment ça se passe, le culte. » Et il raconte le culte qui se passait au deuxième siècle. Fin premier, début deuxième siècle. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que le ramener à la parole de Dieu. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Et c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure.
Il commence, monsieur?
Justin, le martyr. On l'appelle Justus. Voilà. Donc, je vais vous... Voilà. Donc, c'est un historien, c'est un philosophe, un des premiers philosophes. D'ailleurs, là, on va partir dans une discussion plus historique. C'est celui qui est parmi les premiers qui a acté la séparation entre les chrétiens et les juifs. Vous savez, au début... les chrétiens s'étaient considérés comme un courant, une secte juive. Mais c'est parmi les philosophes et les historiens qui a commencé à acter cette séparation entre le judaïsme et le christianisme. Bon, on ne va pas aller là-dessus, mais c'est juste le document qu'il a écrit que je vais partager avec vous. Mais, en faisant cela, ça ne ferait que de l'histoire, ce que je ferai avec vous. Donc, moi, ma question est d'aller un peu plus loin. Mais d'accord, ils se réunissent, mais pourquoi ils se réunissent? D'accord. C'était en fait... Quelle était la vie du chrétien? Sur quoi elle était basée, la vie chrétienne? D'accord? Ils étaient nés de nouveau, etc. Oui, toutes les questions sont venues. Alors j'ai essayé de contenir un peu sur ce que je partageais avec vous. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 2, la Pentecôte est à la fois le début de l'Église, d'accord, la naissance de l'Église. C'est dans ce sens-là que Jésus a dit « Je donne les clés à Pierre, je donne les clés pour l'ouverture du royaume de Dieu, si vous voulez. » En fait, Jésus, quand il parlait de ça, il parlait déjà de sa prédication à la Pentecôte, où d'un seul coup, la bonne nouvelle est annoncée et il y a eu des conversions, l'Église est née. Et la première Église, c'était quand même 3000. Bien qu'on va dire que ce n'était pas 3000, la première Église, c'est ceux qui étaient réunis. C'est ça la première Église, c'était peu, une centaine. On va dire. La première Église, c'était une centaine de personnes et qui étaient réunies, qui priaient, il y avait des hommes, des femmes, etc. Et qui réunissaient. Et à partir de cette petite Église, Dieu a œuvré par l'Esprit et cette Église est devenue une proclamation, un moyen de prolongation de la parole de Dieu, et ses 100 a amené 3000. Oui. Et la Pentecôte est à la fois le début de l'Église vivante, qui n'est rien d'autre que Christ. L'Église, c'est Christ. Quand Christ dit à l'apôtre Paul, « Pourquoi me persécutes-tu » Il ne lui a pas dit, sur la route de Damas, « Pourquoi tu persécutes les chrétiens ?» Non, il lui a dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Donc l'Église, c'est Christ. Quand l'Église souffre, c'est Christ qui souffre. L'Église vivante n'est rien d'autre que Christ vivant dans le monde. Mais aussi l'aboutissement d'un cheminement et d'un processus dans lequel la repentance est primordiale. Voilà un terme que j'ose prononcer. Par l'Esprit, la première prédication de Pierre, que je vous ai lue tout à l'heure, dans le chapitre 2 des Actes, qui a donné la naissance de l'Église, a commencé par la prédication de la repentance. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est très important de voir la succession des choses. La repentance. La suite suit. La naissance de l'Église est fondée sur la prédication de la repentance. Je cherchais la naissance historique de l'Église et je suis ramené à la repentance qui a fait naître l'Église. C'est le message du prophète Jean, un des grands prophètes Jean, comme dit Jésus, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même ? Repentez-vous, car le royaume des dieux est proche. Donc, il n'y a pas de naissance de l'Église sans repentance. Je parle de l'Église à titre collectif et à titre individuel, chacun d'eux. N'oublions pas que nous sommes individuellement l'Église en tant que temple du Saint-Esprit. Une repentance qui naît de ma confrontation, avec la sainteté divine et à la lumière de la parole de Dieu. Mais pour qu'il y ait cette lumière, il faut que je lise la parole de Dieu. Comment je puisse me reconfronter ma vie avec la parole de Dieu et avec Christ si je ne suis pas à la recherche, à la lecture de la parole de Dieu et la prière avec Jésus? Là aussi, un mensonge. Je ne peux pas me repentir sans être avec cette relation avec le Seigneur, au moins ce désir, cette recherche de Christ et à la lumière de sa parole de Dieu. Une repentance qui peut prendre un temps différent chez les uns et chez les autres. Il n'y a pas de règle générale. Souvent, on veut créer un dogme, une règle. C'est comme ça. Non. La repentance, on est tous différents. Pour expérimenter et vivre cette sainte repentance, il n'y a qu'un chemin pour vivre la repentance. Et ce chemin est une personne. C'est Jésus-Christ. Lui-même qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous sommes éclairés sur la repentance, mais je ne peux pas l'inventer. Mais je peux la vivre à la lumière de mon intime relation avec le Seigneur. Je développe ma relation avec le Seigneur, il me fait rentrer dans cette sainte repentance. Cette repentance se vit et se développe dans l'intimité de notre relation avec le Seigneur. Chaque chrétien est unique. Chaque chrétien développe une relation personnelle, intime avec le Seigneur. Et de cette relation personnelle intime, il fait profiter l'Église d'une manière collective. Mes frères et sœurs, quand vous venez le dimanche, vous me faites profiter de votre vie chrétienne de la semaine. Si vous avez mené une vie chrétienne, j'en profite, l'Église en profite. Si ce n'est pas le cas, on subit. C'est le cas de l'Église. Du coup, je suis responsable de vous, vous êtes responsable de moi, si on a tous la même notion du corps. Quand vous vivez votre semaine, chez vous tout seul, mettez-vous dans la tête que notre vie, notre santé spirituelle au niveau collectif dépend de vous. Si ça va mal chez vous, vous êtes en train de rendre malade le corps. Et ça, je dois l'avoir moi aussi. Si je n'ai pas conscience de ça, je ne comprends pas ce que c'est que le corps. Le corps est Christ. Et si je suis le doigt et je ne prends pas soin du doigt, eh bien c'est tout le corps qui souffre. Est-ce qu'on est conscient de ça? Si nous n'en sommes pas conscients, je crois que c'est le moment aussi, chez soi, dans l'intimité, de se mettre à genoux et de confesser devant le Seigneur. Chez l'un, la repentance peut prendre très peu de temps. Chez l'autre, la repentance peut prendre des jours, des mois, voire des années. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas apporté un jugement. Je peux être triste, c'est normal, c'est une sainte tristesse. Ça veut dire que c'est un désir que mon frère et ma sœur soient, voilà. Mais les plans de Dieu nous dépassent. Découvrir le sens profond du sacrifice du Seigneur sur la croix. Découvrir et recevoir la vie éternelle et ainsi entrer dans la vie, dans l'esprit, et expérimenter la vie, le véritable sens de la nouvelle naissance. N'oublions pas que la nouvelle naissance d'un enfant, quand un enfant naît, c'est pas hop, il arrive. Un enfant naît il y a 9 mois, en moyenne. Ces 9 mois, la mère le porte, avec les difficultés, avec la joie, tout ce qu'on veut. Et au bout de 9 mois, il y a la naissance. Et nous, on dit, ça y est, je suis né de nouveau. Mais non, il y a un cheminement qui se fait avant. On ne se rend même pas compte, certainement, dans notre entourage, comme dans la famille Dorothée, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, il y a un travail qui se fait. Mais viendra le moment où il y a cette naissance qui va s'opérer, et cette naissance signe le début et aussi le aboutissement et le début de quelque chose. La nouvelle naissance, comme nous le savons, c'est passer de la chair à l'esprit. La nouvelle naissance, c'est arriver à cet état où nous appartenons à Christ, nos soucis, ce plus terrestre, c'est céleste. La nouvelle naissance est la conséquence d'une repentance, qui porte des fruits. Je vous invite à lire Galates 5, versets 22 et 23. Oh, comme le dit si bien Jean-Baptiste, produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance, au bout, il y a des fruits. Matthieu 3, verset 8. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Oui, prenez, tout a un sens. Hein. Si mon peuple, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire nous, chrétiens, s'humilie, prie et cherche ma face, je précise juste une chose. Il n'est pas en train de s'adresser au monde. Hein. Il s'adresse aux croyants. Mon peuple, c'est-à-dire aux chrétiens. Alors il y en a qui me disent, mais attendez, pourquoi vous parlez de repentance, je suis déjà chrétien. Non, justement. Le chrétien est appelé à une repentance permanente, tant qu'on est dans une chair. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ça s'adresse aux chrétiens, hein, mon peuple. Chrétiens, ils sont dans mauvaises voies, mais c'est pas pour autant qu'ils disent c'est pas mon peuple. Hein. C'est mon peuple quand même, mais avec ses... Hein, il est faillible, tout ce qu'on veut, avec ses faiblesses. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Relisez-le, ce passage, plusieurs fois, vous verrez qu'il est assez clair. La repentance est un cheminement qui s'opère dans notre intimité avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas fabriquer la repentance, mais comme nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, il y a la repentance qui s'anime. Notre confrontation avec la sainteté crée en nous la repentance, parce que tout pour la simple raison, plus je me suis confronté à la sainteté de Dieu, plus je me rends compte que je suis le contraire. Je ne peux que me repentir. Oh là là! Tout ça que je... Mais je ne suis pas tout ça, quoi. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas comme ça. La repentance se développe dans l'intimité, dans notre relation avec le Seigneur. Plus nous découvrirons les contrastes entre l'aliénation et l'obscurité de notre chair et la sainteté divine. Dans notre relation personnelle et intime avec le Seigneur, à travers la prière, la lecture de sa parole, etc., même en pensée, nous découvrirons le décalage entre notre nature et la sienne, entre notre vie et la sienne, et quand on découvre notre nature, on lui dit plus au Seigneur, qu'est-ce que je fais pour toi? Seigneur, oh là là, pardonne-moi, mais je peux rien. Je m'agenouille, je confesse, je me repens. Transforme-moi, Seigneur, après tu fais ce que tu veux de moi. nous découvrirons le décalage entre notre nature et la sienne, entre notre vie et la sienne. Nous expérimenterons le sens même de la sainte tristesse. Et je vous invite à lire les Béatitudes. La sainte tristesse. Il y a une bonne tristesse, une sainte tristesse, qui mène à un bon réconfort divin. Nous vivrons alors la repentance qui sera accompagnée de la confession intime et sincère, et surtout le désir profond de changer. Nous ouvrons alors progressivement ou instantanément la porte du pardon, de la vie et de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance trouve son sens. Si la nouvelle naissance pour nous, quand nous avons reçu le Seigneur, eh bien tant mieux. Mais n'oublions pas, il y a une autre nouvelle naissance encore plus grande. La nouvelle naissance, l'Esprit naît en nous. Mais la véritable nouvelle naissance, c'est quand nous naissons dans l'Esprit. Et ça, c'est la terre promise. Si nous considérons nous avons reçu le Seigneur sa nouvelle naissance, je peux l'accepter. Mais ce n'est pas une fin. C'est une naissance qui se fait en nous, mais qui nous mène vers la plus grande naissance, ou celle que nous naissons en lui, c'est-à-dire en nouveauté de vie, y comportant des fruits. La vie que la Bible appelle, si vous voulez, la vie dans l'esprit, si vous voulez. Ce cheminement était celui des chrétiens simples du début de l'ère chrétienne. Ils n'avaient pas une tête conditionnée par la théologie. Ils ne cherchaient pas à faire des études universitaires pour faire des études de l'apologie, que sais-je. C'était des gens, souvent, ne savaient ni lire ni écrire. C'était des gens simples. Et l'Église de ce jour-là, de l'ère chrétienne, avait aussi la tentation de nouvelles idéologies qui essayaient de rentrer dans l'Église et que les apôtres dénonçaient régulièrement. Mais en tout cas, c'était des chrétiens simples. Ils ne se posaient pas beaucoup de questions. La repentance faisait partie de toutes les rencontres des chrétiens des premiers siècles. C'était le mot-clé dans leur rencontre. La repentance. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Mon frère, ma sœur, tu vois, j'ai envie de te dire quelque chose, mais je pense que tu es sur la pente descendante. Je peux te conseiller de revenir sur le droit chemin? C'était la vie de l'Église. Aujourd'hui, non! Ne dites rien, chacun sa vie. Où est-ce qu'il est la vie d'Église? C'est pourquoi ils cherchaient quotidiennement le Seigneur pour les maintenir dans la vie transformée. Ils cherchaient régulièrement le Seigneur dans la prière, les chants et la communion fraternelle. Ils expérimentaient concrètement la parole du Seigneur. Je suis votre chemin, votre vérité et votre vie. Le Seigneur était leur priorité. Et cette priorité les menait souvent, mes frères et sœurs, au rejet, à la souffrance, à la persécution et jusqu'au martyre. Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde. Ils acceptaient de payer le prix. On les traitait de tous les noms. Lisez l'épître de Pierre, vous verrez, il a envoyé la lettre à des chrétiens où il leur disait « Ne faites pas attention aux calomnies, ne faites pas tout ce qu'on vous dit sur vous. » Et historiquement, effectivement, les Romains, le peuple romain, les accusait de tous les noms, jusqu'à pervers, etc. Ils leur disent « Ne faites pas attention, c'est le prix à payer. Vous avez Christ, vous avez tout. » Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde. Ils étaient réellement nés de nouveau. Je répète, ils étaient réellement nés de nouveau. Pour eux, la nouvelle naissance est l'aboutissement d'un cheminement à travers la découverte du désert de leur chair. À travers leur repentance. La nouvelle naissance avait un sens. Ils sont passés de la mort à la vie, de la chair à la vie dans l'esprit. La nouvelle naissance pour eux, c'était synonyme de vie dans l'esprit. Ils ont découvert concrètement le royaume de Dieu. Cette vie ancrée dans la repentance leur permettait de vivre dans une sainte crainte, comme je l'ai lu tout à l'heure. Ils avaient de la crainte de Dieu. Ils ne faisaient pas les choses comme ça. Faisons attention. On est en la présence d'un Dieu juste, d'un Dieu saint. La crainte. On ne plaisante pas avec Dieu. C'est pas mon copain. C'est mon créateur. Les paroles d'Acte 2 avaient du sens pour eux. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est dit par la suite, la crainte s'emparait de chacun. L'oubli. C'est dans cet état d'esprit que vivaient les premières communautés chrétiennes dont nous avons quelques témoignages à travers l'un des historiens chrétiens, philosophe, on dit apologiste, que vous voulez, Justin de Naplouse, Naplouse, en fait c'est en Palestine. Justin le martyr, ou Justus, comme vous voulez, très connu parmi les chrétiens, surtout orthodoxes. D'ailleurs, on le célèbre le 1er juin, je pense, chez les orthodoxes. Condamné, ce frère-là qui écrit, comment il a fini, comme tous les chrétiens, enfin pour tous les chrétiens, plusieurs chrétiens, condamné pour avoir refusé de participer au culte d'idoles, merci Seigneur de m'avoir éclairé sur l'écuménisme. Quand j'ai lu ça, condamné pour avoir refusé de participer au culte d'idoles, il est exécuté par décapitation vers l'an 165. C'était des chrétiens nés de nouveau. Ils savent le prix à payer. Il a refusé de s'incliner devant les idoles. Donc, il a vécu au deuxième siècle. Voilà. Alors, dans une de ses apologies, c'est-à-dire ses arguments qu'il envoie aux autorités romaines, d'accord, il expliqua comment se déroulait vraiment le culte, simplement le culte du Seigneur à cette époque. Alors, je vais vous lire un extrait. Au fur et à mesure, je vais faire un petit commentaire. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Alors, voilà, il écrit. Au jour appelé le dimanche, il y a un rassemblement dans un même lieu de toutes les personnes qui vivent dans une ville donnée ou dans un district rural. La notion de ce qu'il vient de dire, ça confirme ce qui est écrit dans le début du livre de l'Apocalypse, écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'île Pergame. Donc il y a bien un lieu géographique où les habitants habitent et ils se retrouvent dans un lieu. Vous voyez, donc là on a déjà, au fur et à mesure, par la parole de Dieu, on essaie de vérifier. Donc quelqu'un qui fait 200 km, 300 km pour venir à notre culte, il faut lui dire, mon frère, ma soeur, cherche une église à côté. Oui ? Bien. Donc là, il y avait alors une église par ville. Et là, j'ai mis, il suffit de lire Apocalypse chapitre 2, 3, on a la confirmation que voilà ce qui se passe. Je continue ce qu'il a écrit. Les mémoires des apôtres sont lues autant que le temps le permette. Eh bien, vous comprenez bien que les mémoires des apôtres, c'est devenu le Nouveau Testament par la suite. Donc, les mémoires des apôtres, c'était lu. Et il continue. Puis, lorsque le lecteur le permette, voilà. Puis, lorsque le lecteur cesse, donc il y avait un lecteur, cesse, le président encourage et exhorte l'imitation de ces bonnes choses par un discours. Vous voyez, il y a toujours cet examen de conformité entre le Nouveau Testament et la vie de l'Église. Et il y avait les personnes qui lisent, et il y avait un président qui a apporté la parole de Dieu, et je pense qu'il a dit président, parce que comme il l'a envoyé aux autorités romaines, ils ne savent pas ce que ça veut dire pasteur. Ils ne comprendront pas. Donc il a dit, mais président. Oui. Là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la prédication, mais en lien avec la lecture de la parole de Dieu qui se faisait. Ensuite, nous nous levons tous pour faire monter nos prières. Donc, je comprends bien, les chrétiens priaient debout. Lorsque nous cessons de prier, du pain est présenté avec du vin et de l'eau. Alors là, je n'ai pas compris le l'eau, parce que certainement ça a un sens. Donc, ils prenaient la Sainte Cène, mais il y avait le pain, le vin et l'eau. Est-ce que c'est en rapport par rapport à son corps, l'eau, symbole, je ne sais pas. Voilà. Le président, de la même manière, fait monter des prières et des actions de grâce selon sa capacité. Ouais, donc il n'y a pas de règle, selon sa capacité. Et les personnes chantent leur assentiment en disant Amen. Donc il y a bien la louange là-dedans. Une distribution des éléments pour lesquels l'action de grâce a été rendue est faite pour chaque personne. Et pour ceux qui ne sont pas présents, ils sont envoyés par les diacres. Chaque semaine, ils se réunissaient et prenaient pour les besoins les uns des autres. Ils s'occupaient des uns des autres. Et ceux qui sont absents pour maladie, quoi que ce soit, eh bien, les diacres sont occupés pour leur ramener ce qui leur revient. Ceux qui le peuvent et le veulent, chacun selon son choix, donne ce qu'il désire. Et ce qui est collecté est déposé auprès du président. Il pourvoit pour les orphelins et les veuves, pour ceux qui sont dans le besoin, en raison d'une maladie, et en un mot, il devient le protecteur de tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà le rôle de la collecte de l'argent ou de biens. Il n'y avait pas que l'argent qui est donné. C'est pour la vie de l'Église, pour ceux qui sont dans le besoin. Mais dimanche est le jour durant lequel nous tenons notre assemblée commune. Car c'est le premier jour où Dieu, ayant travaillé à changer les ténèbres et la matière, fit le monde. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, durant le même jour, ressuscita d'entre les morts. Donc on voit pourquoi il choisit le dimanche, ce n'est pas un hasard. C'était vraiment, bibliquement, choisi. Et en effet, il fut crucifié durant le jour précédent, le jour de Saturne, et le jour suivant, celui de Saturne, qui est le jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche. Ayant apparu à ses apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ces choses, lesquelles nous soumettons aussi à votre considération. Il parle du Romain. Je peux continuer. Là, on a la vie de l'Église, simplement. Donc là, on peut mettre en conformité. Mais quand je lis ça, eh bien, qu'est-ce qui ressort de ce que je viens de lire? Donc j'aurai en même temps le temps, je vais me dépêcher. Ce qui est dit est par rapport à la parole de Dieu. Eh bien, on voit, et je ne vais pas m'étaler dessus, et juste les citer, ce qui est écrit là, il y a 6 composantes du culte chrétien. Quand je lis le chapitre 2, chapitre 2 des Actes, on est dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On trouve la lecture de l'Écriture. D'accord? Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrivit d'ailleurs à Timothée, il lui dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Regardons qu'il y a l'exhortation. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Dans ce moment solennel aussi, la lecture de la parole de Dieu était présente dans l'Ancien Testament. Je vous invite à lire Néhémie, chapitre 8, verset 5, d'accord, où il est dit, en fait, quand il y a une lecture de la parole de Dieu qui se fait, toute l'assemblée se levait en respect pour la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est bibliquement, il faut qu'il y ait une lecture de la parole. On ne peut pas se réunir s'il n'y a pas de lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Deuxième, la prédication basée sur l'écriture. Je ne peux pas faire une prédication si ce n'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Je ne peux pas vous raconter une histoire journalistique ou dans le monde. La Bible au centre. Et là, je lis 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, et par son apparition, par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. La parole de Dieu est au centre de toute prédication. Les ingrédients du culte incluent la lecture, puis l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Et si, à l'époque chrétienne, l'ère chrétienne, si une prédication n'inclut pas l'appel à la repentance, n'appelle pas à la conviction du péché, il n'y a pas la réprimande et l'exhortation par la puissance de l'Esprit, ce n'est tout simplement pas une prédication. Voilà la prédication. Quand il y a absence de repentance, d'exhortation, eh bien ce n'était pas une prédication. Il y a là une désobéissance flagrante quand il n'y a pas d'appel, l'exhortation à la repentance. Là, il y a une désobéissance flagrante à l'ordonnance divine. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, je vous invite à le lire, ce qui est aussi un lourde conséquence pour la santé spirituelle d'une assemblée. Ne cherchons pas plus loin si on dit que ça va mal dans les églises aujourd'hui. Troisième élément, la prière. Nous sommes appelés à prier sans cesse, quand on lit 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Sans cesse! Quelle est notre vie de prière, mes frères et sœurs? Nous ne voilons pas la face, chacun devant Dieu. Où est-ce qu'est ma vie de prière? Il n'est pas donc pas surprenant que nous devrions aussi prier durant le culte. Ça fait partie, le culte. Le culte, c'est l'aboutissement d'une vie de prière de la semaine. Je fais participer, mes frères et sœurs. On peut lire dans la première épître de Timothée, « Par conséquent, je veux que les hommes dans tout lieu prient en levant les mains saintes. » Oui, « lit, prient les mains saintes. » La sainteté, hein, sans colère et dissension. 1 Timothée 2, verset 8. Quatrième élément, la louange dans l'assemblée. Que la parole de Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous exhortant dans toute la sagesse, en chantant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, avec reconnaissance dans vos cœurs à Dieu. Le chant fait partie de la vie de l'Église. Cinquième élément, La Sainte Cène. Donc je ne vais pas vous lire 1 Corinthiens chapitre 11, vous le connaissez, mais il faut juste, je termine. Le contexte du verset nous indique qu'un examen personnel doit précéder notre participation au repas du Seigneur, au pain et au vin. Voilà encore, la repentance est au centre. Et le dernier, l'offrande. Des offrandes hebdomadaires étaient recueillies chaque dimanche pour les chrétiens, pour ceux qui étaient dans le besoin, pour la vie de l'Église. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Voilà un exemple de lecture. Et bien évidemment, il y a un point qui, dans la lecture que je n'ai pas faite avec vous, je termine par là. Bien évidemment, après le culte, je dirais même surtout après le culte de dimanche, les chrétiens restaient ensemble pour partager du pain. Ils mangeaient ensemble. Les croyants aimaient se retrouver. Et ils le faisaient souvent, tous les jours même des fois. Tous les jours. Comme l'indique Acte 2, verset 46. Notamment autour de la table. Leur maison était ouverte aux uns et aux autres. Et ils partageaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Le repas était un temps privilégié pour apprendre à vraiment se connaître, s'apprécier, s'aimer authentiquement autour de conversations profondes et vraies et simples. En un sens, cette hospitalité mutuelle reflète l'essence même de l'Évangile. D'étrangers que nous étions, Dieu nous a invités à manger à sa table. En conclusion, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré « Je bâtirai mon Église » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Il a payé le prix. Matthieu 16, verset 18. Et il tient sa promesse. Christ bâtit son Église. Et les mensonges du diable et les persécutions dans ce monde, même psychologiques, on est dans un monde où le monde essaie de rentrer dans l'Église, ne peuvent rien contre la vie miraculeuse de son épouse. Et bien, nous devons être responsables. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père aussi. Avons-nous le souci de l'Église? Avons-nous une vie de prière? Avons-nous mis le centre de la repentance? Cheminons-nous vers la véritable vie nouvelle, vers la véritable nouvelle naissance? Rappelons-nous que la naissance de l'Église, appelée la Pentecôte, est le fruit de la prédication de la repentance qui mène à la vie. Que Dieu nous aide. Amen.